Jean-Christophe Leblond, bonjour.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, on a peut-être un début de polémique autour de cette tour de Radio-Canada qui est l'un des symboles de Montréal et puis plus largement des symboles de la francophonie canadienne. Est-ce que les propos tenus par Phyllis Lambert vous ont étonné? Est-ce que vous les approuvez? Comment vous situez-vous dans cette discussion?
C'est-à-dire que moi, je pense que les propos de Phyllis Lambert, on les a retrouvés dans un article de la presse, et puis j'ai comme l'impression qu'ils sont le début d'une fausse polémique, et je me demande si ça n'a pas été un peu provoqué par des journalistes qui n'ont pas une bonne compréhension de la situation, en fait, qui ont probablement confus différents enjeux qui se retrouvent par rapport à cette question-là.
D'accord. Il faudrait peut-être remonter dans le temps un petit peu. Il faut se souvenir que la construction de la maison de Radio-Canada, à l'époque, il y a un peu plus de 40 ans, avait suscité des débats et avait un peu causé des passions. Est-ce que c'est possible de revenir un petit peu là-dessus?
Oui, en fait, je pense que c'était pas le fait de construire un immeuble pour Radio-Canada qui causait problème. C'était vraiment plutôt la façon dont ça s'est fait, parce que 10 ans avant la construction, lorsqu'il avait été décidé que lorsque le site avait été choisi, en fait, le site c'était un quartier sur lequel habitaient environ 5000 personnes. Et puis cette personne-là a simplement été déplacée, expropriée, et puis le quartier rasé. Donc, ça se comprend que ça ait causé plus qu'une polémique, en fait, que ça ait causé ça a été un scandale, en quelque part.
Et c'est un quartier de Montréal qu'on appelait le Faubourg Amelas. C'était un quartier populaire. Donc, par-dessus le marché, on était un petit peu cavalier avec des gens qui étaient assez démunis, j'imagine, devant l'État et les décisions unilatérales qui avaient été prises.
Oui, c'était simplement une décision imposée qui était antidémocratique et puis qui a détruit une communauté, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment dans la manière dont ça s'est fait par rapport à laquelle il y avait des objections.
Oui. Aujourd'hui, si on se transporte en 2016, on a une tour à laquelle, malgré tout, les gens sont attachés. C'est une tour qui est un peu un symbole de la francophonie, tant au Québec que dans l'ensemble du Canada. Est-ce que on n'est pas en train d'effacer certains acquis sur le plan symbolique? Je sais que en aménagement, on peut s'intéresser au symbole. Est-ce que ça résonne de votre côté? Est-ce que c'est une objection qui peut trouver une certaine pertinence?
Par contre, il y a d'autres objections aussi, d'après moi, qui sont encore plus graves, en ce sens qu'elles sont tout à fait concrètes. Mais d'abord, vous avez raison, tu as raison, c'est clair que cette tour-là, je veux dire, dans le paysage du centre-sud, veux pas, c'est un élément extrêmement présent, donc c'est devenu un peu un repère dans le paysage.
Oui.
Quelle que soit la qualité architecturale de la tour, là, sur laquelle je pense que pas mal tout le monde est d'accord que c'est pas ce qui est le plus intéressant.
C'était pas une réussite, c'était un petit peu théâtral ou je sais pas, peut-être brutaliste, vous allez peut-être me corriger sur les termes,
mais
on s'y est finalement habitué et on a peut-être même fini par l'aimer au bout de quelques décennies.
Oui, parce que comme je dis, c'est le seul fait que ce soit un repère fort dans le paysage fait qu'on peut s'y développer pas nécessairement un attachement, mais une appartenance au bâtiment.
Donc, quand Phyllis Lambert indique de façon péremptoire et définitive qu'il n'y a aucune valeur patrimoniale à la tour de Radio-Canada à Montréal, est-ce que c'est pas aller un peu trop loin pour la fondatrice et dirigeante du Centre canadien d'architecture?
Ben, je pense qu'à un certain niveau, elle a peut-être raison, en ce sens que c'est certainement pas un bâtiment qui, de par ses qualités urbaines ou architecturales, aurait une quelconque valeur. Ça, il faut l'admettre. La valeur s'est retrouvée plus dans la fonction de la tour, parce que il reste que c'est un équipement public extrêmement important, comme tu dis, pour Montréal et pour en fait à l'échelle de la francophonie canadienne, dans la mesure où c'est tous les studios, la très grande majorité des studios de Radio-Canada, sauf les studios régionaux évidemment, mais disons que la production de la très grande majorité des émissions se fait là. Donc c'est un peu la question, c'est de dire ok, ben si on démolit cet énorme équipement public qui est un énorme complexe qui rassemble des studios de production, une quantité énorme d'équipements qui permettent une certaine création culturelle très importante. Est-ce qu'on va le remplacer par quelque chose d'équivalent et pourquoi est-ce qu'on a vraiment les moyens de tout jeter ça à la poubelle? Et puis même d'un point de vue écologique, malgré la façon tout à fait catastrophique dont le projet a été réalisé aux dépens d'une communauté.
À l'origine, oui.
À l'origine, je dirais, d'un point de vue écologique, il y aurait, me semble-t-il, intérêt à voir comment on pourrait au moins recycler cet énorme édifice sans créer, je veux dire, sa démolition créerait des quantités de déchets énormes, en plus de gaspiller toute l'énergie intrinsèque qui a été nécessaire pour la construction. C'est-à-dire que quand on utilise des matériaux de construction, quand on coupe du béton, quand on monte de la maçonnerie, c'est tous des matériaux qui ont requis des matières premières et de l'énergie pour leur création, puis ensuite leur mise en place.
Il y a une pétition qui a commencé à circuler, une élue locale qui est concernée au premier chef par la question, l'élue Manon Massé, dont la circonscription contient cet espace et l'immobilier de Radio-Canada, la tour. C'est une pétition qui a été signée par de nombreux occupants du quartier. Elle appelle le gouvernement à maintenir Radio-Canada dans le centre-sud. On ne sait pas pour le moment si cette présence dans le centre-sud serait dans la tour. Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios? On garde la tour, mais on reste dans le centre-sud, ou on convertit certaines parties du terrain? Est-ce que vous avez pu connaître certains des scénarios envisagés?
Non, et c'est d'ailleurs un peu, c'est intéressant parce que justement c'est un des points auxquels touche la pétition. D'ailleurs, la pétition ne mentionne même pas l'aspect patrimonial. Les enjeux que cible la pétition sont beaucoup plus concrets et puis sont beaucoup plus à un niveau social et économique. Ils disent le centre-sud, c'est un quartier qui est défavorisé et la maison de Radio-Canada, c'est un
vecteur.
Un vecteur, c'est un lieu, c'est un lieu qui occupe une place très très importante dans l'économie du quartier. Et ce que reproche entre autres la pétition, c'est l'absence de consultation. C'est justement l'opacité qui entoure les intentions pour le terrain, qui est absolument énorme, parce que c'est pas juste la tour, évidemment, c'est l'énorme stationnement qui l'entoure aussi.
Oui.
Et encore une fois, personne, je crois que Madame Lambert disait que c'était ahurissant que l'on voit une quelconque valeur patrimoniale dans un projet qui est en quelque part un affront fait à son contexte, et ça, cela va sans dire. Elle critique le fait qu'il y a un énorme stationnement autour, mais je pense que pas mal tout le monde est d'accord avec ça, y compris les gens qui ont signé qui ont mis en ligne cette pétition et les gens qui la signent. Mais je pense qu'il y aurait moyen, et c'est ce que disent les gens qui s'opposent au projet de vente de la Maison de Radio-Canada, qu'il y aurait moyen de récupérer la tour et l'infrastructure qui est là, tout en transformant en profondeur sa relation avec la ville, par exemple, en transformant le stationnement. Le stationnement est tout à fait énorme.
Oui.
C'est un lieu qui est tout près qui est bien desservi par les transports en commun. Donc, Il y aurait tout à fait moyen de grandement améliorer l'apport du site à la collectivité qui l'entoure en utilisant l'espace qui sert de stationnement autrement.
Oui, c'est ce qu'on peut espérer en effet, et sans vouloir m'apesantir sur les symboles, il serait dommage finalement que les équipes de Radio-Canada soient déménagées, réinstallées dans des immeubles sans personnalité, anonymes, peut-être même dispersées
oui,
sur Montréal. Ce serait, sur le plan symbolique, ce serait une perte. Finalement.
Absolument. Ça, je crois que tu as tout à fait raison. Je veux dire, le fait est qu'en ce moment, il y a une concentration d'équipements de production en un lieu qui est certainement un avantage par rapport à si tout ça était dispersé dans des bâtiments un peu anonymes, un peu partout.
Oui.
Tout à fait.
Radio-Canada ne devrait peut-être pas subir le sort de l'ONF. L'ONF a longtemps
Exactement.
Été dans des locaux parfaitement anonymes et industriels, on aurait dit des entrepôts.
Ouais.
Donc peut-être qu'on pourrait éviter ce sort-là à la société d'État. Jean-Christophe Leblond, c'est déjà la fin. Le temps qui nous est imparti est en train de s'égrener. Vous êtes architecte et penseur des questions d'aménagement en milieu urbain et régional. Encore merci d'avoir pris quelques instants pour...
J'aimerais simplement glisser une dernière phrase, si possible. C'est que je pense que le manque de transparence qui entoure le projet de vente de la Maison de Radio-Canada et du terrain répète en quelque part l'expérience du Faubourg Amelas, parce qu'encore une fois, la population du quartier subit sans être consultée. Et je pense que c'est là qu'est le problème qui choque un peu la population.
D'accord, donc l'histoire pourrait se répéter. À suivre, on vous rappellera sans doute pour la suite de ce feuilleton. Encore merci d'avoir participé à l'émission.
Ben, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup et puis à bientôt.
À bientôt.